Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la pleine présence, la confiance et la tendresse, qui sont trois modalités de la pratique. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une pratique. On va commencer la pratique comme on la commence habituellement dans l'école, c'est-à-dire par la pratique des quatre forces. Et puis après, nous glisserons vers la pratique que l'on appelle des multiples bonjours. Donc nous allons commencer. Je vous invite à vous installer bien au milieu de votre coussin ou un peu à l'avant de votre chaise, de telle manière que vous ne soyez pas appuyé sur le dossier, si c'est possible pour vous. Enfin, vous voyez comme c'est confortable. Et donc je vais faire un coup de gong simplement pour indiquer le début de la pratique. Nous allons simplement commencer par nous asseoir véritablement là où nous sommes, sans accorder d'attention particulière à la posture ou à ce qu'il faudrait faire. On peut juste d'abord prendre le temps de savourer le fait que nous sommes assis, que ce soit sur le coussin ou sur la chaise, et laisser votre corps s'asseoir. Rien de particulier à faire si ce n'est de laisser le corps trouver sa posture la plus simple. Vous pouvez vous autoriser à être là comme vous êtes maintenant. Sans effort. Vous pouvez sentir comme c'est là pour vous, votre ambiance intérieure, et puis se dire que c'est OK comme ça. Nous allons commencer la pratique des quatre forces. Et la première force, c'est l'écoute. Et là, il s'agit simplement de se mettre à l'écoute de tous les bruits et les sons qui sont autour de nous. On laisse pour un temps tomber notre bavardage intérieur. On entend l'oiseau qui vient de passer. L'air au coulement, au loin. Les discussions. Un léger bruit de fond. Il n'est pas vraiment nécessaire de nommer tous ces sons. Juste on les laisse s'imprimer en nous. Ce premier mouvement est important parce que on se tourne véritablement vers l'extérieur, rien qu'en écoutant. Ça ne nous demande pas d'effort. On est avec ce qui est là pour nous, autour de nous. Peut-être qu'il y a des commentaires qui viennent avec certains sons. Vous pouvez laisser tomber ça. Vous pouvez sentir comme ça vous situe quelque part, parce qu'il y a des sons qui sont plus proches, d'autres qui sont plus éloignés. Grâce à l'écoute d'emblée, nous sommes au monde, reliés. C'est en ça que c'est la première force. Puis nous pouvons passer à la deuxième force, qui est l'ancrage corporel. Là, je vous invite à porter votre attention de manière un peu plus précise sur votre assise, que ce soit sur le coussin ou sur la chaise. Vraiment, prenez le temps de sentir le bassin qui s'assoit peut-être encore un peu plus. Laissez-vous vous asseoir. C'est même qui bouge un peu pour trouver son assise la plus juste. Sentez les pieds en contact avec le coussin, le sol. Sentir comme c'est solide. On sent qu'on s'établit comme ça lorsque nous nous ancrons. Entre en contact avec la terre. Et puis peut-être que vous pouvez sentir que le dos se redresse. Pas besoin d'effort vraiment particulier pour ça, mais voilà, nous sommes en rapport avec la droiture. Les épaules se relâchent. La poitrine s'ouvre. La tête est bien droite. Et puis nous pouvons passer à la troisième force qui est la respiration. Et je vous invite à la suivre, simplement, sans la modifier. Vous pouvez sentir le mouvement de votre poitrine. Sentir comme l'air vient aérer votre posture. Sentir que comme ce double mouvement vient vivifier tout votre être. poisson à la quatrième force, qui est la relation à l'espace. Là, je vous invite à sentir l'espace tout autour de vous. Ça peut paraître un peu étrange parce qu'on ne fait pas ça très souvent. Selon que vous êtes près d'un mur ou au milieu de la salle, vous pouvez sentir les sensations différentes à droite ou à gauche. Sentir que grâce aux fenêtres, on est entièrement en rapport aussi à l'espace à l'extérieur. C'est vaste et ample. Sentir tout l'espace au-dessus de nos têtes, grâce au haut plafond. Peut-être ça nous donne envie de nous redresser encore. Et on peut toucher un sens d'accueil, d'ouverture, juste à ce qui est là maintenant. Ces quatre forces sont comme un quatuor qui joue ensemble. Parfois, certaines pratiques, une des forces se rappelle à nous plus fortement. Vous pouvez maintenant prendre un peu de temps pour sentir comment elles sont là pour vous. Peut-être que c'est l'écoute qui vous appelle ou la respiration. Ou peut-être qu'elles sont là toutes les quatre ensemble. Juste voir ce qui est là pour vous maintenant, singulièrement. Maintenant, je vous propose de passer à la deuxième partie de la pratique. Ça s'appelle la pratique des multiples bonjours. Le premier bonjour, c'est dire bonjour au fait même d'être assis. Et donc, on se pose vraiment pour de bon. Étonnamment, à chaque fois qu'on porte son attention sur l'assise, on se rend compte qu'on peut s'asseoir encore un peu plus. C'est toujours quelque chose qui est un peu perché. Et souvent, dans notre vie de tous les jours, on n'a pas vraiment notre place, on court un peu dans tous les sens. Et là, le mouvement, c'est de s'asseoir et prendre place, sa place. Nous aider, on peut prendre une image, par exemple une montagne ou un rocher. Il n'y a pas besoin de se demander ce qu'elle fait là, juste elle est amplement là. Solidement ancrée. Peut-être qu'on peut sentir comme ça fait du bien de, à un moment, maintenant, être à sa place. Et on dit bonjour à cela. Ensuite, on peut dire bonjour à l'immobilité. Au fur et à mesure qu'on s'assied, on sent que on entre dans une grande immobilité. Dans cette immobilité, il est beaucoup plus simple d'explorer tout ce qui nous arrive. Tout est simplifié. Si on bouge, qu'on fait plein de choses, on passe à côté à toute une partie de notre expérience. Pendant la pratique, on est immobile et on peut s'ouvrir dans le plus grand détail. Donc on dit bonjour à cette immobilité qui nous permet de voir précisément ce qui se montre là pour nous ce soir. Et on peut dire bonjour au fait qu'on soit dans un espace où on simplifie les choses. Ce qui est important de sentir, c'est que ce n'est pas du tout un défi ou quelque chose à laquelle il faudrait arriver. Juste l'immobilité vient. C'est un moyen tout simple pour entrer dans la pratique. Donc, par exemple, si vous avez envie de bouger, bien, tout à coup vous voyez que vous avez envie de bouger. Vous pouvez juste le noter. Ça rentre dans le champ de la présence. Alors qu'habituellement, juste on bouge. Donc on peut dire bonjour à ce cadre qu'est l'immobilité dans la pratique. Et puis, maintenant on peut dire bonjour au fait que nous sommes alertes pendant la pratique. Il y a quelque chose de vif, d'attentif. On ne se courbe pas, on reste bien droit. Ça peut être légèrement inconfortable parce qu'on n'en a pas l'habitude. Mais vraiment, ça aide la pratique. À toucher quelque chose de la droiture. Puis on la perd, puis on la retrouve. Puis on peut dire bonjour à chaque fois qu'on la retrouve. Ensuite, nous pouvons dire bonjour à nouveau au souffle, à notre respiration. Et peut-être qu'on peut être un peu plus curieux et voir ce qu'elle nous raconte, cette respiration. Comment est-elle ce soir? Est-ce qu'elle est aisée? Est-ce qu'elle est retenue? Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est crispée? Sans rien changer, on dit bonjour à ce souffle et à ce qu'il nous dit de notre état d'être ce soir. Et grâce à ce bonjour au souffle, on dit aussi bonjour à comment on se sent là maintenant. On dit bonjour à tout ce qu'on éprouve. Et puis enfin, on peut dire bonjour au présent vivant. Il y a sans doute des pensées qui vous traversent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous submerge, ou peut-être que vous avez juste envie de vous assoupir. Là, je vous invite à dire bonjour à tout ce qui vous traverse. Un peu comme vous diriez bonjour à un ami que vous retrouvez. De manière chaleureuse, accueillante. Et puis, il se peut aussi qu'il y a tellement de choses qui vous traversent qu'au fond, vous soyez plus vraiment là. Peut-être que vous avez même perdu le fil de ce que je raconte. Ça se brouille un peu, vous êtes ailleurs, dans les jardins. Pensez à ce que vous allez faire après. Et puis, à un moment, vous êtes de nouveau là, présent, entièrement dans cette pièce avec les autres pratiquants. Et là, je vous invite à dire bonjour à ce retour à la présence. Bonjour à ce qui vous a fait revenir, peut-être c'est le rayon de soleil juste dans l'œil qui me dit c'est ici que ça se passe. Bonjour. Je vous invite vraiment à dire ça mentalement. C'est un moment très important de la pratique. C'est ce qui nous aide à faire la différence entre les moments où nous sommes un peu ou beaucoup absent, et les moments où on est vraiment présent, là, ouvert, alerte, digne. Dans la pratique, on peut dire comme ça bonjour à tout ce qui survient. Il y a le cadre et l'espace pour cela. Et on peut rester comme ça quelques instants dans cette tonalité d'accueil pour tout ce qui est. Tout ce qui se manifeste là pour vous maintenant, quoi que ce soit. Donc le thème de ce soir, c'est pleine présence, confiance et tendresse. Donc j'ai choisi ce thème parce qu'au fond c'est la tonalité de trois pratiques qui sont transmises dans l'école. Ils sont des tonalités importantes dans la pratique de la méditation. Et ce sont des tonalités qui peuvent sembler un peu étonnantes parce que quand on vient au fond... Quand on pousse pour la première fois la porte, d'une école comme ça de méditation. Il y a sans doute mille raisons pour lesquelles on vient, peut-être pour s'apaiser, peut-être pour s'offrir du temps pour soi, pour s'ancrer un peu plus, peu importe. En tout cas, à un moment donné, il y a comme une reconnaissance, qu'elle soit très claire ou un peu subtile, que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait ajusté dans notre existence et qu'on a envie d'un peu explorer ça. Et je me suis dit que ce soir, ce serait pas mal de dire quelques mots des fruits de la méditation. Il y en a beaucoup, des fruits de la méditation. Des fruits de la méditation peut-être un peu surprenants, justement, qui sont la pleine présence, la confiance et la tendresse. Des fruits qui, à mon sens, sont bien plus riche et sucré qu'un soulagement ponctuel dans une situation. Et donc voilà, on va explorer un peu ça ce soir. Donc la première tonalité, c'est la pleine présence, ou mindfulness en anglais. Je pense que tout le monde a beaucoup entendu ce nom de pratique de méditation. Et c'est véritablement la base de la pratique, celle à partir duquel toutes les autres pratiques s'articulent. Et c'est ce qu'on a fait ce soir dans la pratique des quatre forces et puis après dans la pratique des multiples bonjours. Parce qu'au fond, le cœur de la pratique, c'est véritablement apprendre à dire bonjour à tout ce qui est là. Qui est au fond une autre manière de dire accueillir, rencontrer, se relier à ce qui est là pour nous. Et intellectuellement, ça semble assez évident, hein, mais peut-être qu'on peut juste y penser comme ça une minute. Faire l'exercice et se dire aujourd'hui, dans mon expérience, est-ce qu'il n'y a pas un moment où j'aurais voulu que les choses soient autrement, un moment où on s'en est voulu pour quelque chose. Par exemple, cet après-midi, je me suis dit, enfin quand même, tu aurais pu préparer cet enseignement ce week-end, tu aurais moins couru aujourd'hui, etc. Je m'en voulais un peu. Enfin, souvent, si on réfléchit, il y a un petit coup de pas assez ou un petit coup de trop, etc. Dans la pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on se relie à ce qui est là. Est-ce que quand on entre dans ce chemin, souvent ce qui est là, ce qu'on remarque en premier lieu, c'est justement tous ces goûts de trop ou de pas assez, les douleurs qu'on rencontre même corporellement dans la pratique, certains manquent ou l'impression justement voilà, qu'il nous manque quelque chose ou qu'on voudrait changer dans ce que nous sommes. Et donc le renversement radical qui est proposé dans la pratique de la méditation, c'est de se déplacer et de dire bonjour à ce qui est là, à l'accueillir. Et c'est ça, cette pratique pendant une demi-heure ou 20 minutes, enfin, le temps que nous pratiquons, on dit que tout ce qui est là, pour nous, c'est OK, que ça me plaise ou non. Et dans le chemin de la pratique, ce qui est assez magique, c'est que peu à peu, la fin de cette phrase va se gommer. Ça veut dire que ce ne sera pas assez OK que ce soit là, que ça me plaise ou non, mais juste c'est OK que ce soit là, quoi. Et donc on porte beaucoup moins d'importance au fur et à mesure au fait que ça nous plaise ou non. Il y a moins ces jugements qui sont au fond extrêmement fatigants sur tout ce que nous faisons, ce que nous pensons, ce que nous sommes. Et donc c'est comment se relier de manière beaucoup plus directe et immédiate, juste avec ce qui se montre là pour nous, dans la pratique. Et laisser venir ça à la présence sans que ce soit caché justement par le voile des jugements. Et une expression que j'aime beaucoup, c'est l'expression de la présence d'esprit. Et au fond, c'est à ça que nous entraînons dans cette pratique. J'aime beaucoup cette expression parce que elle porte en elle vraiment quelque chose de vif, d'intelligent, avec un certain sens de l'humour. Quand on dit quelqu'un qui a la présence d'esprit, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment absolument présent à tout ce qui est la conversation, à ce qu'il faut faire. Un des fruits de la pratique, c'est véritablement ça. Quelque chose de très vif, d'intelligent, d'alerte. Et en fait, ça revient à dire, c'est d'être complètement en rapport avec ce qui est là et voir les liens, entre toutes les choses qui constituent une situation. Enfin bref, être pleinement présent, et c'est pour ça qu'on appelle cette pratique vraiment essentielle et fondatrice, entre guillemets, la pleine présence. La deuxième tonalité de la pratique, c'est la confiance. et la confiance, mais pas n'importe laquelle. Donc véritablement la confiance, je pourrais dire presque la confiance nue, la confiance pure. Donc une fois que la pratique devient un peu régulière, on peut avoir vraiment la sensation qu'on peut se fier à cette pratique. Parfois, on ne peut pas toujours mettre deux mots sur les raisons pour lesquelles on peut se fier entièrement à la pratique, mais juste on sent que c'est bon, on sent qu'il y a quelque chose qui s'y passe, même si on ne peut pas à nouveau dire clairement de quel ordre est la transformation, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la resynchronisation avec, avec soi-même, un peu comme si les blocs de l'ego s'ajustaient absolument correctement. On s'assied dans la pratique et en fait on se confie, on s'en remet au pouvoir silencieux de cette pratique. On laisse faire et on laisse la chose se faire, simplement ouvert à ce qui se passe. Et donc là, on est vraiment dans tout un autre registre que la confiance en soi. On en parle souvent dans l'école, qu'on devrait absolument avoir. On n'arrête pas de parler de ça dans toutes les techniques de développement personnel, etc. C'est en 3 leçons ou 10 leçons, comment vous expliquer pour avoir plus de confiance en soi et de la confiance en soi, enfin bon. Et moi, souvent, quand on m'a dit ça, je me suis dit, bon, d'accord, mais j'appuie sur quel bouton quoi, pour avoir la confiance en moi si je me sens coupée de cela. Voilà, ça y est, j'y arrive pas, encore quelque chose ne peut pas développer, etc. Bon, à un moment donné, basta, quoi, on ne s'en sort plus. Tandis qu'ici, le geste, c'est vraiment la confiance de se fier à quelque chose de radicalement autre que ça, que soi. Et c'est ça aussi le déplacement paradoxal. Donc c'est pas faire confiance en soi, mais c'est se fier, se confier à quelque chose d'autre, soi, d'autre que soi. Ce qui va tout à fait avec l'étymologie même du mot confiance. Quelque chose qui n'a pas nécessairement besoin d'être nommé. Il s'agit de se relier à quelque chose juste qui est bon. Donc je pensais, pour écrire ça, je pensais justement à... Enfin, j'étais sur ma terrasse, pour tout vous dire, et je regardais l'olivier que j'ai reçu l'année dernière de la communauté de Bruxelles à l'occasion du décès de mon père. Je n'avais jamais vu que... Enfin, c'est complètement un peu fou, mais je ne savais pas que les oliviers avaient des magnifiques petites fleurs toutes blanches. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Et là, elles ont complètement éclos au soleil. Et... je me suis rendu compte que quel que soit l'état d'esprit dans lequel nous sommes, être tracassé, inquiet, anxieux, quoi, il y a toujours la possibilité de se relier comme ça à la surprise de quelque chose absolument simplement bon, telle cette toute minuscule petite fleur d'olivier. Et à les regarder comme ça, on sent sans effort que c'est bon, enfin, je sentais sans effort que c'était bon à mon cœur, que ça me réchauffait et que ça m'invitait véritablement à me ressourcer dans cette bonté. Et donc, en pratiquant la méditation, ce qu'on découvre, c'est ce sens d'ouverture confiante à tout ce qui est bon, comme une manière de laver notre regard pour justement voir apparaître ce qui est bon là autour de nous de manière extrêmement simple. Alors, il ne s'agit pas du tout d'être un béni-oui et de se dire tout est beau, tout est joli, machin, ça et tout ça. Le mouvement, c'est de dire que l'expérience n'est jamais... unilatéral, quoi. C'est toujours multiple, il y a de multiples facettes, multiples contrastes, et au pire des problèmes, il y a de toute façon toujours pour l'être humain la possibilité de se relier à quelque chose de bon. Et c'est ça qui donne véritablement la confiance. Et c'est ça qui donne aussi la confiance dans la multiplicité des possibilités même dans la réalité et l'expérience. Et donc on entraîne cela dans la pratique de la méditation. Et un sens de confiance, d'allant, vient. Et enfin, la troisième tonalité, c'est de dire que l'espace de la pratique est un espace de guérison profond. Alors bien sûr, je ne parle pas du tout de guérison médicale, je ne vais pas vous vendre le fait que, parce qu'on s'assied sur un coussin, nos maladies vont disparaître... J'espère que ça c'est tout à fait clair, mais ce qu'elle soigne au fond c'est quelque chose de notre être, peut-être quelque chose, ce qui est blessé au fond au cœur de notre être, mais je vais en dire quelques mots. Et donc ça c'est véritablement la dimension de tendresse au cœur de la méditation. Et de la même manière qu'on éveille notre esprit à la présence, on éveille aussi notre cœur. Et plutôt que de le malmener à force de ne pas l'écouter, le mouvement, c'est justement toujours ce même mouvement, s'y pencher pour laisser sa part de vulnérabilité nous apparaître. Et là aussi, c'est le paradoxe en fait de la pratique. L'idée, c'est pas du tout de s'éloigner et de cacher notre vulnérabilité, etc. Mais au contraire, c'est d'aller à sa rencontre. Et donc les pratiques d'amour bienveillant que nous faisons les mercredis qui sont dédiés, qui sont réservés aux membres de l'école, ce sont des pratiques que je pourrais appeler des pratiques de réconciliation ou de réunification avec soi, les autres, le monde. Et on découvre que sans fausse pudeur, en fait, on peut simplement se souhaiter d'être heureux, en paix, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Et ça, ça s'entend même dans le mot tendresse, qui est si essentiel. Dans ce mot, peut-être qu'on peut sentir que le phénomène, c'est vraiment de se pencher avec attention et présence vers ce qui nous attendrit, que notre cœur s'ouvre et puis en même temps frémit un peu d'être ainsi mis à nu, en fait. Et dans la pratique, il y a le cadre nécessaire, l'immobilité, comme vous l'avez peut-être pu sentir dans la méditation guidée, justement pour se pencher sur ce qui est à vif. Parce que peut-être que de manière habituelle, si on se penche comme ça sur ce cœur, on nous dit « oulala, non, moi je vais surtout bien rester colmaté, qu'on ne me parle pas trop ». Et c'est souvent ça qu'on rencontre en fait lors des premières pratiques d'amour bienveillant, c'est « oulala, de toute façon je ne sens rien, ça ne veut pas », etc. Et en fait c'est entièrement ok, il n'y a aucun problème avec ça. Là aussi il y a un mouvement de confiance et que... à force d'une certaine régularité, pas à force, tout ça c'est pas très tendre, mais avec la régularité de la pratique, le cœur s'ouvre et à un moment donné, véritablement embrasse ce qui est là, parfois. Et donc chaque méditation, ce qui est important de dire, c'est quand même sans s'en rendre compte, comme ça les pratiques de méditation guidée qu'on a fait là maintenant, contient sa part de tendresse, de pleine présence et de confiance. De tendresse simplement parce que dans le fait qu'on se penche avec bienveillance, avec tout ce qui est dans notre panier, là aujourd'hui, c'est déjà ça au fond qui entraîne notre cœur à aller vers, à s'ouvrir plutôt qu'à se fermer. Et puis il y a ce sens de confiance parce qu'en fait, bravo à tous, personne ne s'est couché pour pratiquer, donc il réside là aussi, combien de fois on a... peut-être voulu s'assouplir, qu'on a senti ses épaules tomber, etc. Et pourtant, voilà, on tient avec confiance. Et donc ça aussi, c'est déjà entièrement dans la pratique. Et enfin, pour ce qui est de la pleine présence, ben, à chaque fois que vous avez dit bonjour, en fait, vous êtes entraîné à la pleine présence et à l'attention, en fait, à ce qui est là. Donc voilà, c'était pour vous... Vous dépliez un peu trois tonalités comme ça qui sont expliquées de manière différente pour que ce soit assez pédagogique, mais qui en fait se retrouvent dans chacune des pratiques que nous faisons, même à notre insu. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et puis si vous avez des questions là-dessus, sur la pratique qu'on vient de faire, sur la pratique en général, sur l'école, enfin en tout cas toutes les questions sont extrêmement bienvenues. Et ce sera avec grand plaisir que je tenterai d'y répondre.
Alors, j'ai une question.
Oui.
Plus sur ce que tu viens de dire tout à la fin, tu me dis qu'au fur et à mesure des pratiques, on s'habitue, ou notre cœur est habitué à s'ouvrir, ou un truc. Enfin, tu avais une phrase que je trouvais qui a plus de sens que j'ai compris. Que même si
j'ai mis oui, j'ai mis enfin bon, peu importe. L'idée c'est que en fait la grande idée là-dedans c'est que il s'agit aussi d'un entraînement. Donc c'est assez étonnant, mais l'ouverture du cœur c'est quelque chose qui peut comme la pratique de la méditation est une pratique, on le dit souvent, et donc où apprendre à ouvrir, ça s'apprend en fait à ouvrir son cœur. Et donc là, effectivement, la première chose souvent, c'est se rendre compte qu'en fait, ça parle pas, c'est fermé, on a, pour certaines personnes, aucun rapport avec ça, etc. Et déjà dire ok, c'est comme ça, il y a pas, c'est comme ça, juste on constate, c'est comme un diagnostic, on regarde, on se rend compte. Mais au fur et à mesure des pratiques, eh bien, les choses s'ouvrent peu à peu. Et après, il y a autre chose qu'il faut dire aussi tout de suite, c'est que ça dépend de comment on est, la journée, la situation dans son existence, etc. Ça s'ouvre. En fait, ce qu'on constate, c'est que ça s'ouvre et que ça se ferme tout le temps, et que c'est pas justement toujours fermé, etc.
C'est pas non plus toujours plus les pratiques, plus...
Pas du tout. Voilà. Non, voilà. Ça, c'est
ça aussi que...
C'est très important de le préciser, c'est que ce qui arrive avec la pratique et la régularité de la pratique, c'est qu'on remarque qu'il y a des moments où le cœur s'ouvre. Mais c'est pas... une expansion à l'infini juste parce qu'on pratique tous les jours. Parce que, alors là, ce serait complètement fou. L'idée, c'est de rencontrer son cœur comme il est au moment de la pratique. Et donc, si ça tombe, bah, il est fermé complètement. Fermé, on lui dit bonjour que c'est comme ça. Et puis, le lendemain, tu sais pas quelle expérience peut arriver. Tu vas avoir un sens de grande ouverture, de grande tendresse. Et donc, l'entraînement, c'est surtout de rencontrer ce qui est là pleinement sans croire que les choses ne bougent pas tout le temps. Quoi. Est-ce que ça répond à ta question ?
Oui, tout à fait. Merci.
Jen ?
Moi, je suis très sensible au mot entraînement vu que j'ai fait beaucoup de sport pendant très longtemps. Et c'est marrant parce que je le vois beaucoup avec cette rigueur, ce fait de répondre, enfin faire un truc régulier suivant un protocole, etc. Enfin, moi je faisais beaucoup d'aviron, c'était toujours faire à la recherche du geste parfait, du mouvement parfait. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un jeu où il y a peut-être, il y a peut-être une recherche de quelque chose à un moment, ou peut-être une discipline, ou peut-être une tenue, je sais pas, mais à un moment, ça lâche et puis à un moment, ça revient. Mais c'est comme, enfin, cette pratique, tu disais, laisser notre corps se déposer. J'aimais beaucoup ce mot et j'étais là et j'essayais de laisser mon corps se déposer. Et il ne se déposait pas. Et puis j'essayais de laisser encore plus se déposer, vraiment de me concentrer, de voir vraiment cette retenue dans les jambes. Et à la fois, enfin oui, c'était très étrange parce que à la fois je me disais, ah, tiens, bon bah, il y a un blocage et je veux retenir. Et puis à la fois, à un moment, j'ai laissé et j'ai juste suivi ce que tu disais. Et puis, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais il y a toujours ce truc de vouloir bien faire au début, et puis à un moment, tu parlais de confiance, mais c'est se laisser porter par ce qui est. Et c'est chouette de voir, de voir tout qui bouge tout le temps. Et tu disais tantôt, plus on peut, enfin, je ne sais plus des mots, mais quand on pratique plus, on voit peut-être parfois. Plus ces moments présents, moi je vois surtout que je vois beaucoup plus mes moments d'absence. Mais c'est bien, c'est plus fin, il y a plein de nuances.
Mais en fait, comme c'est toujours présence, absence, par contraste, quand tu rentres en rapport avec le fait que tu sois absente, c'est que tu es revenue à la présence. Donc, c'est ça qui est. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai dit plusieurs fois le mot entraînement et je me suis dit bon, il faut que ce soit entendu du bon endroit quoi, parce que c'est sûr que c'est pas du tout l'idée de l'entraînement où on pousse les athlètes à aller dans, enfin parfois sans doute aller loin dans ce qu'ils peuvent faire, etc. Enfin t'en parlerais mieux que moi, mais là c'est vraiment plutôt dans le sens où la pratique est... Il y a un chemin, ça se transforme, on découvre d'autres choses, et qui n'a rien à faire à partir du moment où c'est une pratique, plus on pratique, plus il y a des fruits, plus il y a la transformation, etc. Donc il y a un certain sens d'entraînement, mais il y a un certain sens de discipline aussi, pas dans le sens on va se flageller si on ne le fait pas, mais c'est sûr qu'on n'a pas tous les jours envie de foncer sur son coussin comme ça. Et donc, c'est sûr qu'il y a un certain sens de régularité, de discipline qui est importante. Mais à partir du moment où on a touché ce sens de soulagement ou quelque chose où vraiment, comme c'est bon pour nous de s'asseoir, même si on a mal au dos ou des choses comme ça, ça vient en fait, ce sens de discipline. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand on essaye de se poser, on essaye de se poser, finalement, on se rend compte la plupart du temps qu'on n'est pas posé. Et puis quand tu lâches, en fait, ça se fait de manière subreptice. Et c'est comme ça pour la plupart des choses dans la pratique de la méditation. C'est que souvent, c'est quand... voilà, ça arrive et on ne peut pas contrôler. Et c'est ça qui est formidable, justement. C'est que c'est un espace où on ne contrôle pas ce qui se passe. Ça ne marche pas. On ne peut pas contrôler ses pensées, pas contrôler ses émotions, on ne peut pas contrôler son souffle. Enfin, on peut, mais alors on devient fou. Et l'idée, c'est justement constater que tout ça arrive sans avoir à faire d'efforts particuliers. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions, parce que parfois on peut être un peu gêné, mais en fait souvent tout le monde est très content d'entendre les questions des autres parce qu'on a peut-être les mêmes. Oui, quel est votre prénom ?
Olivier.
Voilà. Olivier, bonjour.
Merci pour l'enseignement. J'avais une question, c'est plus un mouvement de pleine présence, c'est ça, ou pleine conscience ? Il y en a plusieurs qui se chevauchent, je voulais savoir un petit peu c'était quoi la différence entre celui-ci et les autres.
Merci. Donc nous, en tout cas, on a choisi le nom pleine présence à dessein. Donc c'est vraiment des pratiques de pleine présence. Peut-être peut commencer par dire pourquoi on n'a pas choisi pleine conscience comme traduction pour mindfulness. Parce qu'en fait, quand on regarde très précisément ce que veut dire ces deux mots de pleine conscience, en fait, on n'est pas du tout dans ce que c'est que la pratique traditionnelle de la méditation. Pleine conscience, c'est vraiment... la conscience, c'est vraiment le je qui se rend compte de ce qui lui arrive. Et donc, l'exercice de pleine conscience, on pourrait essayer de le faire. C'est par exemple, si vous mangez une pomme, manger une pomme en pleine conscience, c'est « je me rends compte que je mange une pomme ». Respirer en pleine conscience, c'est « je me rends compte que je respire ». Donc au fond, ce qui est au cœur de ce mot-là, c'est le « je » plutôt que la pomme ou la respiration, vous voyez ce que je veux dire. Et donc utiliser ce mot-là pose un véritable problème dans la compréhension de ce que c'est que la pratique. Alors je ne dis pas que tous ceux qui pratiquent la pleine conscience pratiquent comme ça, mais disons que ça rend très difficile de comprendre que la pratique, c'est rencontrer ce qui est sans aucune immédiateté, et sans justement ce « je », jugeant, etc. quoi. Et donc, en fait, les autres courants, moi, je ne les connais pas nécessairement. La différence qu'il y a, par exemple, dans les groupes de pleine conscience, etc., peut-être vous pensez aux 8 semaines ou de pleine conscience, ce genre de choses. Donc, dans l'école, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on transmet la pratique de la méditation en dehors de tout protocole, c'est vraiment intéressant, vraiment important pour nous. Tous les enseignants sont invités à transmettre la pratique de la méditation à partir de leur propre expérience. Donc ça veut dire qu'il n'y a jamais une seule causerie ou un seul enseignement qui est pareil, jamais, puisqu'on part toujours de là où on en est aujourd'hui, etc. Et il y a un sens du chemin, en fait. Ça veut dire qu'on accompagne les pratiquants dans l'école, au fond, tout au long de leur chemin d'existence, dans la pratique de la méditation. Et souvent, il y a des personnes qui font les 8 semaines, par exemple, de pleine conscience ou mindfulness, qui viennent chez nous parce qu'ils ont envie de pratiquer en groupe ou dans une communauté de pratiquants, etc. Donc voilà, après on est des cousins, je dirais que pour faire simple, on est un peu des cousins éloignés, quelque chose comme ça. La pratique elle est la pratique, quoi, disons. Mais je ne sais pas si ça, est-ce que oui. Ça répond.
Et donc c'est principalement de la méditation assise, c'est ça ?
C'est que de la. Alors, il y a les pratiques de méditation en marchant. Par exemple, quand on fait les dimanches matins pour les membres. Là, on pratique 3 heures d'affilée et donc on entrecoupe une demi-heure de pratique avec 10 minutes de méditation en marchant, etc. Mais c'est effectivement essentiellement de la pratique de méditation assise.
Ouais. Il y a une question entre le bouddhisme et ceci, il n'y a rien de pas de connexion.
Bah, bien sûr.
De méditation, enfin,
faut... si, bien sûr qu'il y a une connexion. Alors, nous, ce qui est très important dans l'école, c'est une transmission de pratiques de méditation de manière laïque, non dogmatique et surtout tournée de manière à ce que ce soit complètement en rapport avec l'existence de chacun dans notre vie aujourd'hui. Maintenant, dans l'école de méditation, il y a la possibilité pour ceux, une des voies de l'école, parce qu'il y a beaucoup de voies dans l'école de méditation, une des voies de l'école, c'est l'étude aussi du bouddhisme, par exemple, mais qu'on ne fait pas du tout ici. Il y a des séminaires qui sont faits pour ça, juste pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas du tout quelque chose qui est obligé, enfin voilà. Mais on peut dire que la pratique qu'on transmet est une pratique absolument traditionnelle, dans le sens où on n'invente pas la pratique. C'est vraiment des pratiques tout à fait traditionnelles. Donc on ne va pas essayer d'en faire un outil spécifique pour atteindre tel objectif, etc. Et donc en fait, il y a un peu un paradoxe, parce qu'à la fois c'est très traditionnel et ça respecte les textes, je dirais, plus classiques de transmission de la pratique de la méditation. Et en même temps, c'est moderne, parce que la manière dont on transmet, c'est aussi avec des mots... qui ne sont pas des mots qu'on va entendre depuis 7 siècles au Tibet, quoi. Mais par exemple, la pleine présence, ce sens d'ouverture, etc., ça correspond à des points très très précis dans la tradition bouddhiste. Par exemple, il y a shamatha, il y a vipassana, des choses comme ça. On ne va pas utiliser ces mots-là parce que ça ne parle à personne. Mais par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est véritablement de pointer, pas le fait que ce soit bouddhiste, mais de pointer le phénomène exact auquel ça correspond pour le pratiquant. Et donner ces mots-là. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Si je réponds à votre question.
Merci.
Je vous en prie.
Moi, j'avais une micro-question parce que tu as parlé d'étymologie sans vous détailler.
Oui,
c'est vrai. Tu as parlé de confiance, tu as dit, tiens, l'étymologie le dit clairement et tu n'as pas dit l'étymologie.
C'est vrai, mais en fait, ça partage la même étymologie que le mot foi, en fait. Et la confiance, c'est le fait de se fier dans quelque chose qui est autre, quelque chose qui est autre que soi. Et donc, si tu veux, c'est le même mouvement que la foi, en fait. Quand tu as foi en quelque chose, c'est ce mouvement de s'abandonner à quelque chose d'autre qui est soi. Et donc, ça peut un peu... Il y a un petit mouvement à faire, effectivement.
Et le coup.
Jeanne. Ben justement, j'ai une hésitation.
Ça veut dire avec ?
Ensemble.
Oui. Je te dirai ça, j'irai vérifier. Probablement, c'est parce que quand je l'ai dit, je me suis dit zut, j'ai pas vérifié. Je vais passer au-dessus, mais je peux compter sur toi pour mettre le doigt juste sur le truc sur lequel j'ai pas vérifié. En tout cas, le point important, c'est le fait de se fier à autre chose que soi, à s'en remettre à quelque chose. Et en fait, quand on s'assied dans la pratique de la méditation, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelque chose du contrôle qu'on abandonne. On voit bien que les pensées nous dépassent, que nous traversent, on voit bien qu'on ne peut pas se poser quand on veut se poser, enfin tout ça. Et donc, voilà, il y a le déplacement. Mais demain, tu auras l'étymologie exacte. Je la mettrai pour le mail d'enregistrement, comme ça ira. Tous ceux qui écouteront l'enseignement auront... J'irai voir un formidable dictionnaire de l'âme, Picoche d'étymologie, que je recommande à tout le monde si ça intéresse.
C'est quel nom?
C'est Larousse, je pense, c'est Picoche.
Bien sûr.
Une dame extraordinaire qui a fait un dictionnaire d'étymologie, pour ceux qui ça passionne. Donc voilà. Bah écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, ce que nous allons faire, c'est pratiquer maintenant en silence. Donc, vous pouvez simplement de nouveau vous asseoir comme c'est bien pour vous. Et peut-être je vous invite à garder ce mouvement de bonjour ou de salut à ce qui est là, à ce qui est là pour vous maintenant. Avant que l'on se quitte, aussi vous dire que en fait, ces trois tonalités de la pratique de la méditation sont le thème des trois premiers stages qui sont donnés dans l'école. Donc le premier stage qui est 5 jours pour apprendre à méditer, où là vraiment on explore la pleine présence de manière très très précise et chacun de ses aspects, le corps, l'esprit, les émotions, vraiment la posture, etc. Et puis le deuxième stage qui est la confiance en la vie, où là on explore véritablement ce que c'est que cette confiance et cette bonté dans lesquelles on peut se relier grâce à la pratique. Et puis ensuite le troisième stage qui s'appelle l'intelligence de l'amour, où véritablement on explore par différentes pratiques justement cette possibilité toujours là pour le cœur de s'ouvrir. Après il y a encore d'autres stages qui suivent, mais en tout cas c'était une manière d'aussi présenter ces trois tonalités-là. Et je vous invite, pour avoir toutes les informations, à regarder sur le site de l'école qui est très foisonnant mais bien fait. Toutes les explications sur les stages, etc., évidemment. Me reste à vous dire que ce serait vraiment formidable que, après que j'ai fait le coup de gong qui signale la fin de notre session, si on peut donner un petit coup de main. Peut-être Jeanne, tu peux mieux expliquer que moi comment on va faire pour ranger les coussins.
Ce qui serait super, c'est que chacun prenne son coussin, mais pas que, parce qu'il y a beaucoup de place libre, et qu'on fasse un tas au bout à gauche, avec les coussins, les abutons et les galettes. Et on va faire une chaîne pour emmener dans les vestiaires, parce qu'on peut être que maximum 2 personnes à la fois dans les vestiaires. Donc l'idée, c'est d'abord ranger et puis après échanger et puis sinon.
Oui, bien sûr, tous les volontaires de l'école sont ravis de poser les questions, pas aussi, mais en tout cas répondre à toutes les questions que vous auriez évidemment sur l'école ou sur la pratique, comme vous le souhaitez. En tout cas, je trouvais ça vraiment extraordinaire de pratiquer comme ça avec le chant du soir des oiseaux avec vous ce soir. Merci pour cela. Et je vais faire le coup de gong qui clôture notre session de ce soir. Merci à tous pour votre présence. Passez une belle soirée. Rendez-vous la semaine prochaine.